décomposé.
Matière.
Plastique.
Installé.
Accroché.
Exposé.
Sixième plateau.
Hermut.
Un peu cérébral.
Frac PACA. Sixième plateau. Une oreille tendue vers le frac PACA. Radio Grenouille. Sixième plateau.
Ah, si c'est une heure, alors là c'est autre chose.
Frac PACA. Radio Grenouille. Sixième plateau.
Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur Radio Grenouille. Pascal Grimaud est photographe. Pour le temps présent, l'exposition qu'il présentera au FRAC PACA du 7 octobre au 8 novembre 2017, Pascal Grimaud est retourné sur les terres de son enfance. À Égalières, un petit village tranquille à une heure de Marseille, face à de vastes champs d'oliviers et aux superbes paysages des Alpilles. Un village comme il en existe mille autres en France. Pas trop loin de la ville, mais pas à côté non plus. Où le temps passe lentement. Où l'on s'ennuie parfois, mais où il fait bon grandir. Pascal Grimaud a vu du pays depuis. Des Comores à Madagascar, du Venezuela à l'Afrique de l'Ouest, il a exploré d'autres espaces-temps pendant plusieurs années. En 2001, il obtient le prix Révélation du festival Terre d'Images de Biarritz et la mention Portfolio remarqué au prix Kodak de la critique. Puis des livres. En 2004, Le bateau ivre, des histoires en terre malgache. 2006, Fille de lune, de l'archipel des Comores à Marseille. Et Maïden Africa, en 2009. Avec ce retour au village, le photographe fait le choix de ralentir. D'interroger l'habituel, ceux que nous ne questionnons plus, ceux qui ne nous questionnent pas non plus, retrouver quelque chose de l'étonnement, à la manière de Georges Perec et de son infra-ordinaire. Entre rêverie et rigueur documentaire, Pascal Grimaud donne ici à voir la présence du temps à l'œuvre. Radio Grenouille.
Bonjour Pascal Grimaud.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir dans votre antre. C'est quoi une bonne photo, Pascal Grimaud ?
Ça, c'est vraiment la question à laquelle j'espère que je ne saurai jamais répondre. C'est simplement peut-être un processus créatif. Donc la bonne photo, ça ne sera jamais la même. C'est pas celle que je faisais il y a 20 ans, celle que je fais aujourd'hui. Elles sont certainement très différentes. Elles doivent simplement répondre, je pense, à mes attentes et aussi me surprendre quelque part. C'est-à-dire que c'est une photo que je ne pensais pas faire il y a 6 mois ou 1 an. Et ça peut être un léger accident ou un léger décalage par rapport à ce que je fais d'habitude. Et celle-ci va m'intéresser. Voilà.
Alors après avoir travaillé sur du photoreportage dans des territoires plutôt lointains qui vous ont mené notamment dans les Outre-mer, à Madagascar, au Venezuela, à Cuba ou en Afrique de l'Ouest, vous êtes revenu à Marseille où vous vivez et travaillez. Et l'exposition que vous présentez au FRAC, Le Temps Présent, nous emmène cette fois à la découverte de plusieurs communes, plusieurs villages, des Bouches-du-Rhône où le temps, justement, semble être plutôt suspendu, plutôt figé.
Pendant des années, oui, j'ai photographié le lointain. C'était une façon peut-être de se fabriquer un regard. C'était aussi une façon de prendre une distance avec mon environnement proche. Et certainement d'être photographe à temps plein quand je ne suis pas ici. Être photographe à l'endroit où on vit, ça me paraissait très compliqué et ça l'est toujours, mais donc j'ai préféré commencer comme ça, aller voir ailleurs. Et aussi il y avait peut-être toute cette mythologie, ce rêve qu'on a quand on est un peu plus jeune de voyager et d'associer le voyage avec une pratique artistique. Et l'une et l'autre se nourrissent. Je ne sais pas si c'est la photo qui m'a amené au voyage ou le voyage à la photo, mais en tout cas les deux étaient des bons prétextes pour aller voir ailleurs. Mais photographier ici a toujours été assez compliquée. J'ai fait plusieurs tentatives et elles sont vite soldées par des renoncements. Le temps présent est aussi issu d'une tentative d'il y a peut-être une dizaine d'années où j'ai commencé à photographier mon village, donc à une heure d'ici, une heure de Marseille, et voilà ce besoin d'aller voir un peu d'où on vient, de photographier son environnement proche, sa famille, et puis aussi de porter un regard sur ce qui a forcément énormément changé depuis son enfance.
Au sujet du temps, quand on se balade à travers vos photographies, on a vraiment cette sensation d'un présent un peu coincé entre quelque chose qui n'est plus vraiment mais qui persiste, un futur pas encore advenu ou une transformation assez prémisse mais très lente.
C'est peut-être dû aussi au médium, c'est-à-dire la photographie fige un temps et le dispositif que j'ai choisi pour ce projet-là était assez nouveau pour moi puisque j'ai photographié beaucoup à la chambre, ce qui nécessite des temps de pause relativement longs et surtout une installation. C'est-à-dire que je suis obligé de me poser, de sortir un trépied, de sortir le matériel, de l'installer. Donc ça induit une prise de vue particulière et qui peut-être peut donner cette sensation de temps figé, quoi. Le temps inscrit dans la photographie est un temps long, c'est-à-dire que c'est un temps qui dure, le temps de la prise de vue est assez long. Et donc peut donner cette impression de temps suspendu. C'est un peu ce qui m'intéressait aussi, c'était vraiment de mettre beaucoup de lumière sur la même image, c'est-à-dire de laisser laisser la lumière impressionner le film pendant un certain temps. J'avais besoin de contempler vraiment ces paysages que je connais très bien, que je reconnaissais, c'est-à-dire qui m'étonnait par rapport à ce que j'avais, c'est-à-dire que quand on est enfant, je pense qu'on est, tout est normal autour de nous, tout est acquis, c'est-à-dire on regarde même pas les choses, et on les fréquente, on les use, on les pratique et on se pose pas de questions dessus.
Il s'agit là vraiment littéralement d'un retour au village. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce retour ?
J'étais pas très loin, je suis à Marseille, donc je suis à une heure du village. Mes parents y sont toujours, donc j'y suis allé régulièrement. J'ai pas eu la sensation de le quitter vraiment, mais quand je vais voir mes parents, ma famille, je vais à un point précis, je ne fréquente pas le village ou je ne le pratique pas, c'est-à-dire que j'y vais, je reste, on reste une demi-journée, puis je repars. Il n'y avait plus cette pratique du territoire, quoi. C'est-à-dire que je ne faisais très peu de promenades, je voyais très peu de gens. Donc effectivement, c'était une sorte de retour. Pour le faire bien, je crois que j'ai travaillé un peu comme si c'était comme un vortex. C'est-à-dire que j'ai commencé par le bord du village. Et petit à petit, je me rapprochais du centre, c'est-à-dire du village même, de la structure villageoise où la vie sociale a lieu. Cette approche, c'est faite sur du long terme. C'est-à-dire que j'avais 2 ans pour faire mon travail. Donc pendant peut-être les 7-8 premiers mois, ça a été uniquement une photographie de paysage. Je suis arrivé à commencer à photographier la vie sociale, c'est-à-dire ce qui se passait dans le village au moment des festivités. Donc c'était le moment fort où les gens se retrouvent pour des pèlerinages, pour des fêtes votives, toutes sortes d'animations. Et là, oui, effectivement, il y avait aussi un retour vers l'enfance parce que j'ai retrouvé des copains d'école. Et c'était assez troublant. Oui.
Radio Grenouille. Dans vos photos, vous avez utilisé le village comme mise en scène pour exprimer peut-être une réalité plus large de ces villages de France qui sont comme un peu à la marge en termes d'espace.
Il y avait une problématique assez singulière dans le département, c'est-à-dire que le département est très peuplé, les métropoles sont très étendues, du coup les villages sont assez rares, dans le sens où des villages où il y a une population assez réduite encore, entre moins de 2000 habitants, et des villages qui aient une vraie vie sociale encore, une vie autour d'un clocher, d'une école. Et j'avais surtout peur de commencer à photographier un village dortoir, comme il y en a beaucoup. Et là, ce qui était intéressant, c'est de trouver, à travers ces villages qui ont une vraie identité, de se confronter avec la vie moderne. C'est-à-dire que Ils sont parfaitement intégrés dans une. Enfin, je dirais, ils sont pas. C'est pas au fin fond de l'Aveyron ou dans une région perdue. Donc, en même temps, j'ai vraiment ressenti une espèce de cloisonnement. C'est-à-dire que c'était, il y avait vraiment une identité qui se travaille un peu par exclusion, rejet. On va forcer les identités. On peut avoir une peur du global et du coup, on va renchérir sur notre identité, quoi. Donc j'ai découvert des pratiques qui peut-être n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans et qui aujourd'hui, tout ce qui est autour des fêtes taurines, je pense que c'est aussi un moyen de s'affirmer, de se dire voilà, on est de ce village, nous on fait les choses comme ça.
Sixième plateau.
Une oreille tendue vers le frac PACA.
À l'époque où vous travailliez pour une agence de presse, on a pu voir notamment vos photographies publiées dans Libé, dans Le Monde Diplomatique ou encore Le Courrier International. Vous traitiez pour eux l'événement, l'extraordinaire, parfois l'insolite. Et avec le temps présent, vous opérez comme un retournement, celui de l'infraordinaire, comme le nomme Georges Perec. Il s'agit là d'interroger l'habituel. Et donc de ralentir.
Oui, c'est bien sûr, mais je pense que j'ai jamais été un reporter, donc j'ai jamais vraiment répondu à des commandes précises. Donc j'ai quand même toujours eu une pratique assez avec une certaine distance, mais cette distance effectivement s'allonge avec le temps et le temps se ralentit aussi. C'est-à-dire que j'accorde plus d'importance au fond qu'à vraiment la nécessité de ramener des images. Quoi. C'est vraiment, je cherche plus à répondre à mes préoccupations qu'à illustrer un propos.
En tout cas, vous vous sentez proche de cette démarche d'infraordinaire, d'aller interroger l'habituel, ce qu'on ne questionne même plus en fait.
Oui, c'est quelque chose que j'ai appris en allant, par exemple, à Madagascar, les premières fois où j'ai effectivement essentiellement photographié l'extraordinaire, qui est un grand classique. Quand on arrive à un endroit qu'on ne connaît pas, on va forcément voir ce qui nous surprend. Quoi. Est-ce que nous surprend ? Ça nous surprend parce qu'on ne le connaît pas, mais une fois qu'on y vit sur place, ça devient quelque chose de plus habituel. J'ai bien compris aussi très vite que c'était le piège, quoi. C'était quelque chose de... Ça ne racontait pas grand-chose quoi, sur Madagascar, par exemple, quand j'y étais. Donc il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'allers-retours, notamment pour m'intéresser à des choses qu'on ne voit pas les premières fois. Et pour ça, il faut se débarrasser de ces premiers chocs visuels. Quoi. Notamment, et là, je l'ai constaté aussi dans les villages, quoi, les gens, la plupart des gens qui font des photographies, ils vont photographier... la course de chevaux ou les taureaux qui déambulent dans le village, mais ne vont pas regarder ce qui se passe autour. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était forcément j'étais plus intéressé par le public, par l'attitude des gens, par ces rassemblements informels, ces discussions entre jeunes autour de ce prétexte de la fête pour se retrouver, pour discuter, plus que le taureau qui traverse la rue et qui la traversera encore dans 10 ans et qui sera toujours le même, quoi.
Pourquoi le temps présent ? Qu'est-ce qu'il nous dit ?
Le temps présent vient d'un musicien décédé récemment, mais de Béjart aussi, Pierre-Henri. J'avais vraiment cette nécessité de me poser, quoi, de prendre du temps, et je l'avais ce temps pour photographier. Et je voulais vraiment m'inscrire dans la durée, c'est-à-dire donc travailler vraiment sur plus d'une année, donc faire toutes les saisons. Et ce qui était intéressant, c'est que je pouvais développer moi-même les films. Et donc je faisais un aller-retour en permanence entre le laboratoire ici à Marseille et le terrain dans les villages. Je passais vraiment beaucoup de temps sur place, même si je photographiais très peu, si je faisais 3 photos dans la journée, je pouvais passer la journée entière dans le village. Donc je peux vous dire que c'est long. Donc j'écoutais beaucoup de musique, je lisais dans la voiture, j'attendais. Voilà. Donc je voulais vraiment prendre du temps, tout visiter, tout ressentir et revenir encore. Et donc voilà, c'était vraiment là maintenant. Quoi.
Avec un rapport à la mémoire ?
Ce travail-là, oui, je me suis beaucoup servi d'une iconographie des années que j'appelle les années heureuses, puisque ce sont mes années d'enfance, quoi, enfin, les années 60, 70, enfin 70 surtout. J'ai beaucoup acheté de cartes postales de ces années-là, qui sont toujours des pures merveilles, puisqu'elles représentent, elles ont une certaine naïveté. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes comme ça qui travaillaient pour des éditeurs de cartes postales et qui étaient envoyées dans les villages et qui devaient ramener des images de ce village pour éditer des cartes postales, parce que ça se vendait énormément. Et donc j'ai tout fouillé comme ça, des séries entières de choses insignifiantes. On photographie le camping, on photographie des pins, on photographie un rosier dans un village. Enfin, des choses très étonnantes et qui étaient éditées en permanence en carte postale. Et parfois même des séries entières, on sent que c'est le même photographe, le même jour qui a fait 36 photos. Et puis finalement ça donne 30 cartes postales différentes. Il y a juste des petits changements de cadrage, mais c'est tout. Et elles étaient très importantes dans le sens où c'était aussi un repère pour moi de voilà, ce que j'avais connu. C'était ça, c'était, les paysages étaient comme ça. Je ne voulais pas les refaire aujourd'hui, c'est-à-dire pas aller retourner, faire un observatoire et refotographier les mêmes endroits. Mais c'était une base de départ et... Oui, une base de travail iconographique très importante, quoi.
Si vous deviez trouver trois adjectifs pour qualifier ces villages dans lesquels vous êtes retourné.
C'est trop compliqué, je crois, pour moi de les qualifier, parce que j'ai eu tous les sentiments, c'est-à-dire des moments vraiment de pur bonheur, où c'est-à-dire on s'est dit, bon, voilà, je viens de là, effectivement, je reconnais que ce soit le village dans lequel j'ai habité ou les autres villages, je ressentais les mêmes choses, c'est-à-dire c'était vraiment les mêmes codes, mais et aussi cette surprise de me dire ben forcément les choses ont changé, donc moi j'ai changé aussi quand je voyais effectivement les résultats des élections qui sont déroulées sur ces périodes-là. J'étais toujours un peu étonné, ça contrastait énormément avec ce que je pouvais ressentir sur place, c'est-à-dire je me disais ben voilà, c'est quand même des territoires où je me sens bien. Et curieusement, ces gens avec qui je passe du bon temps, bah, ces gens-là votent pour des partis extrémistes et ont enfin, une autre conception des choses, de la vie que la mienne, quoi.
Est-ce que vous seriez d'accord d'ouvrir ce livre, Le Temps Présent, et de choisir une photo qui vous a particulièrement marqué, dans peut-être son attente, son espérance, et de nous raconter quoi, ce qu'il y a autour, derrière, sur les côtés, ces choses-là qu'on ne voit pas.
Donc c'est une photo de jeunes gens qui sont dans une fête foraine, dans une fête votive plutôt, qui discutent entre eux. Donc une photo toute simple, le contexte est quand même peu visible, c'est-à-dire qu'il y a juste une barrière métallique qui peut étonner, mais quand on connaît un petit peu les villages, on comprend que c'est une barrière qui sert à fermer des voies lors de lâcher de taureaux, par exemple, donc des barrières métalliques où les gens peuvent passer à travers, mais pas les taureaux. Et c'est le seul petit élément qui vient peut-être nous renseigner sur ce qui se passe. Et nous avons un groupe de cinq jeunes qui discutent, baskets aux pieds, t-shirt, casquette sur la tête, enfin voilà, qui sont en train de discuter, donc il se passe rien. Autour, il y a forcément beaucoup de monde puisque c'est la fête votive et toutes les rues sont remplies de familles, de touristes, de gens, des chevaux, des taureaux. Et donc moi, ce que je cherche toujours, j'aime bien décontextualiser mes prises de vue, c'est-à-dire d'isoler mes sujets, de nettoyer un peu le cadre et de faire en sorte qu'on se concentre uniquement sur ce que je veux montrer. Et donc là, c'était ces cinq ados qui discutent entre eux. Ce qui m'a étonné, c'est que ça m'a rappelé une photo de collègues et moi-même au village que je vais mettre en exposition au FRAC et sur laquelle on a exactement la même attitude, c'est-à-dire en 30 ans plus tôt, ben voilà, on est pareil. Et donc c'était tout à fait totalement inconscient quand j'ai fait cette image-là. Je pensais pas du tout à cette image que j'ai retrouvée dans l'album de famille où on me voit avec des copains en train de discuter aussi dans exactement le même contexte. Je me suis dit que ben voilà, on avait toujours la même attitude quand on avait 15 ans et toujours la même malaise avec son corps. On ne sait jamais trop comment se tenir. On essaie toujours d'être ensemble parce qu'on n'ose pas trop se montrer en public. Enfin voilà, des choses comme ça.
hear it like a pound's upon a pico. Look at what the light did now. Or bear it like a bounce upon a pico. Look at what the light did now. Flow.
Land and water and bird are beast.
Justement, vous parliez de lumière. La lumière, ici, elle est quand même très réputée. De très nombreux artistes parlent de cette lumière magique dans le sud et en Provence. C'est quoi la plus belle lumière que vous ayez jamais vue de toute votre vie?
J'aurais tendance à parler d'exotisme, mais si, ici, j'aime beaucoup la lumière du soir, la lumière bleue. C'est-à-dire quand vraiment le soleil est couché depuis un petit moment et qu'il y a une certaine lueur qui persiste dans le ciel, et surtout là l'été, après 22 heures, là vraiment je trouve que la lumière est vraiment magique parce qu'elle dure. Elle dure très longtemps, à l'identique, c'est-à-dire pendant 20 minutes, une demi-heure, on a vraiment la même, cette même lumière qui est très douce, quoi, parce qu'elle vient du ciel, mais il n'y a pas d'ombre. Donc voilà, c'est une lumière que j'apprécie énormément. Une des contraintes que je me suis peut-être donnée aussi pour le temps présent, c'est que je voulais plus travailler que sur des belles lumières, ce que j'avais fait en Afrique de l'Ouest, par exemple, sur un précédent travail. J'avais travaillé essentiellement sur des lumières du soir ou du matin, et je fuyais les grosses lumières de la journée qui écrasent les couleurs. Là, je me suis dit, peu importe la lumière, ce sera quand j'y serai, au moment où je suis, je photographie et point barre. Quoi. Y a pas de, je ne vais pas attendre que la lumière soit belle à ce moment-là, qu'elle devienne plus douce, qu'elle devienne plus agréable. Non, je photographie quand j'ai envie de photographier et quand le sujet m'interpelle. Quoi.
Mais c'est peut-être aussi parce que cette lumière du zénith n'enjolive pas, elle ne sublime pas, elle montre, elle est crue, elle est dure. C'est quoi? C'est l'objectivité de cette lumière?
Il y a ça quelque part. Au départ, c'était pas tout à fait conscient, mais et ça m'a de suite intéressé justement aussi parce que ça répondait très bien à ce que je montrais, quoi. C'est-à-dire essentiellement des rues, des maisons vides, des parpaings, des zones comme ça délaissées, et les gens ne sont pas là ne sont pas chez eux entre 10h et 14h, puisqu'ils sont au travail en général. Donc ce sont des zones, effectivement, où il n'y a personne, et c'est exactement ce que je voulais montrer, quoi. Donc tout collait bien.
Pascal Grimaud, vous êtes photographe, mais si vous aviez dû vous déporter du côté pictural pour ce projet, le temps présent, qui est-ce que vous auriez invoqué, ou quelle technique de peinture est-ce que vous auriez convoqué ?
Oula. Bah, j'ai toujours été très influencé par Hopper, donc c'est pas tout à fait ses lumières, effectivement. Hein. Lui, il est plutôt dans des lumières de nuit ou assez douces. Mais oui, je pense que j'aurais bien aimé avoir ce genre d'approche avec des gens aux fenêtres ou au bistrot en train de bouquiner. Voilà.
Et tout à l'heure, vous me parliez aussi de l'attente. Vous avez passé beaucoup de temps sur place à attendre le bon moment, de ressentir le lieu, les gens et les paysages, et ses lumières aussi. Et donc vous avez passé beaucoup de temps dans votre voiture à lire et à écouter de la musique. Il se trouve qu'à la fin du livre, vous avez ajouté une playlist des titres que vous avez écoutés.
Bah, disons qu'à la fin, j'ai fait un petit résumé aussi des noms des endroits que j'ai fréquentés. Donc je trouvais ça assez marrant, parce qu'il y a vraiment des noms assez, assez étonnants, comme le cul de vache, le chemin du Maneuf, chemin de la Pointue, chemin de Jovade. Enfin voilà, il y a des noms, chemin du Bagna, il y a des noms très très beaux, je trouvais, chaque fois. Donc je notais ça. Et moi, j'avais une pochette de CD dans la voiture, donc j'écoutais à peu près toujours les mêmes, et forcément ils n'étaient pas tout à fait raccord avec le paysage, mais ils m'ont vraiment accompagné. C'était presque une habitude, quoi. Donc je les mettais systématiquement pour aller faire ces photographies là et c'était presque comme c'était un encouragement aussi, parce que parfois sortir dans un village et se trimballer avec un appareil photo et chercher on ne sait pas trop quoi, c'était pas toujours évident, quoi. C'était pas toujours facile. Je pouvais rentrer et y aller, ne faire que, ou pas faire de photo, ou ne faire une photo, puis voilà, d'avoir fait 200 km pour rien. Et l'attente faisait partie du projet et toujours liée, enfin, la photographie, de toute façon, on travaille sur le temps, mais donc la majorité du temps, c'est du temps à attendre, rêver, lire, être assis quelque part et regarder. Enfin, voilà, c'est des temps morts, mais qui sont essentiels, qui nourrissent.
Et alors, si on devait ajouter du son dans ces photographies, on est plutôt Pierre-Henri et la messe du temps présent, ou alors Charles Mingus et Miles Davis ?
On est un peu dans tous les styles. J'écoutais beaucoup Music aussi à ce moment-là. J'écoutais Miles Davis. Il y avait un nouvel album de Bowie qui venait de sortir aussi. Donc, je redécouvrais Bowie. Je passais par toutes les humeurs, Billie Holiday. Disons que là, comme il y avait cette répétition, c'était vraiment, il y a quelques disques que je n'écoute plus depuis, parce que je les ai tellement écoutés à ce moment-là dans la voiture que je les ai un peu épuisés. Quand je suis à l'étranger, j'emporte jamais de musique, par contre. J'écouterai ce que j'entends sur place, mais je ne vais pas amener de musique pour m'isoler. J'ai besoin de rester tout le temps en alerte.
Dernière question pour finir cet entretien, Pascal Grimaud. Vous exposez donc au FRAC PACA du 7 octobre au dimanche 5 novembre
Comment est-ce que vous vous sentez dans ce monde de l'art modelé de conceptualisation et de forte spéculation? Un monde en plus qui tend à s'éloigner de l'intuition, finalement, cette intuition qui semble être pas mal au cœur de votre travail d'ailleurs.
Tout à fait, oui, c'est vraiment ça. Je n'ai pas du tout une formation d'artiste, je ne suis pas passé par les beaux-arts, j'ai un parcours très classique, j'ai été assistant d'un photographe. Un photographe d'architecture, donc j'ai appris comme un assistant. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de labos, j'ai fait du terrain. C'était un très long cheminement et bien sûr c'est pas du tout, je ne suis pas du tout dans la conceptualisation de mes projets, même si je sais ou je sens ce que je veux obtenir, mais c'est toujours je ne sais pas ce que je vais avoir, quoi. Quand je commence un travail, je ne sais pas où je vais.
Est-ce que vous vous sentez libre, en tout cas ?
Si je me sens libre, c'est dans ma pratique. Mais cette liberté-là, elle a un prix. Et ce prix-là, c'est de trouver des ressources pour pouvoir continuer. Seule chose qui m'intéresse, c'est ça. C'est de pouvoir faire encore des images prochainement. Ce n'est pas forcément de rentrer dans une case ou de trouver ma famille ou de me sentir bien dans un milieu. C'est cet équilibre-là qui est vraiment très fragile et qui ne peut toujours personnel, c'est-à-dire que personne n'a un modèle type et chacun se débrouille un peu comme il peut, comme il veut. Ce que je fais, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est honnête par rapport à ce que je suis, et c'est pas par rapport au monde extérieur, c'est pas par rapport à l'endroit où je vais montrer les images ou les gens avec qui je vais travailler, c'est simplement si moi je m'y reconnais et si je me trahis pas. Là, tout va bien.
Merci beaucoup, Pascal Grimaud, d'être venu faire un tour sur les ondes de Radio Grenouille et de nous avoir reçus chez vous. Merci.
Merci.
L'exposition Le Temps Présent de Pascal Grimaud se visite au FRAC PACA à Marseille du 7 octobre au 8 novembre prochain. Réécoutez cette émission sur le www.radiogrenouille.com. Bonne journée sur les 3-8. Radio Grenouille.
Exposé.
Matière.
Plastique.
Installé. Accroché.
Accroché.
Exposé.
Sixième plateau.
FRAC
PACA, sixième plateau. Une oreille tendue vers le FRAC PACA. Radio Grenouille, sixième plateau. Sixième plateau.
Ah, si c'est une heure, alors là, c'est autre chose.
Tous les sons du FRAC
à retrouver sur les ondes du 88.8 FM et en podcast sur le webmag
FRAC en poche.
radiogrenouille.com.